Ça marche. Donc, nous sommes dimanche, le dernier jour d'Angoulême, en compagnie de BSK, qui fait partie intégrante de nos interviews, de l'histoire, des petites structures qu'on est en train de petit à petit assembler. Une partie du puzzle, Philippe, tout à fait. Donc voilà, Benoît, donc la première question qu'on voulait te poser, c'est simplement comment tu as commencé, quand tu as commencé, quelles étaient tes motivations, tes désirs, tes rêves au départ, pourquoi tu as commencé, quand tu as commencé à dessiner, des choses comme ça, un peu les origines de ton travail.
D'accord, ok, donc...
Je vais le tenir.
Très bien. Je pense que comme beaucoup, j'ai commencé très très petit. En fait, la bande dessinée a toujours fait partie de ma vie et je pense que je dessine depuis que je sais écrire et je lis des bandes dessinées depuis que je sais lire. Donc, mais très 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 tôt, j'ai quand même été assez curieux un peu et j'ai lu beaucoup beaucoup de bandes dessinées de plein d'auteurs. Genre à 5-6 ans, je sais que j'ai été très marqué par des gens comme Palacios ou Robert Gigi. Je me souviens du journal de Lucky Luke à cette époque. Il y avait justement ces auteurs. Après, des trucs plus classiques, hein, Astérix, tout ça. Donc j'ai été un très très gros lecteur très vite et très rapidement. Je me suis mis à dessiner mes propres histoires. Voilà, donc je me suis jamais arrêté, en gros, de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Voilà, après...
Quand est-ce qu'il y a eu un déclic où est-ce que tu t'es toujours dit je vais étudier la bande dessinée, je vais suivre un parcours classique ou alors tu t'es dit tu es tombé sur un fanzine, comment ça s'est passé
Alors le fanzine, en fait, j'ai découvert ça très très tard. Disons que j'ai été pour moi la bande dessinée c'était classique, on fait des albums de 44 pages, on les trouve en librairie. Je m'étais jamais posé la question sur... En même temps, c'était l'époque qui voulait ça, hein, c'était les années 70-80, donc c'était quand même assez classique à l'époque. Donc oui, j'ai eu un parcours, donc je dessinais, et je faisais mes bandes dessinées. Pour moi, dans ma tête, j'allais être dessinateur de bandes dessinées et j'allais éditer des albums. Voilà, après en fait quand j'ai eu 20 ans, 20, 23 ans, 20 ans, ouais, je me suis arrêté de dessiner. J'ai eu une espèce de blocage. Donc j'avais envoyé plein de projets, j'étais sorti de l'école, j'avais envoyé plein de projets à droite à gauche et d'un coup, lettre type et les réponses négatives qui arrivent dans ma boîte aux lettres. Donc une certaine remise en question et peut-être un... Et je me suis arrêté de dessiner, en fait.
Tu faisais quoi comme genre de projet à l'époque? C'était déjà, on va dire, autobiographique ou c'était quel genre d'histoire tu racontais, tu dessinais?
Alors ouais, l'autobiographie, en fait, en y réfléchissant bien, j'ai commencé peut-être à faire un peu de l'autofiction vers l'âge de 16 ans, 16-17 ans. Ça s'était fait assez naturellement, hein. Mais j'étais aussi pas mal influencé à l'époque par les revues de l'époque, hein. Il y avait Metal, hein. il y avait Rigolo. Rigolo m'a énormément marqué, surtout le travail de Charlie Schlingo. Charlie Schlingo, ça a été une révélation, ça a été plus qu'une révélation, ça a été une véritable épiphanie, ça a été... Charlie Schlingo a réellement changé ma vie. Voilà. Mais l'a vraiment transformé, quoi.
Tu l'as déjà rencontré?
J'ai eu cette chance, ouais, avant qu'il meure. Je l'ai rencontré 2-3 fois. J'ai même eu la chance de le voir plus ou moins à jeun. Ça fait qu'on a pu discuter pendant plus d'une heure. Et c'était... c'était bien. C'était... Alors le fanzina, après, en fait, c'est un ami. Donc j'avais dit que je m'étais arrêté de dessiner vers l'âge de 20 ans. Et en fait, j'ai rien fait du tout en bande dessinée pendant 3 ans. En fait, j'ai fait beaucoup de peinture, de musique. J'ai quand même continué des activités créatives. Et puis, bon, bah, après, j'ai eu un petit déclic et je me suis remis à dessiner. Et là, c'est un ami qui m'a dit « Pourquoi tu fais pas un fanzine ?» Donc, je devais avoir 23 ans à peu près. Le fanzine, j'avais entendu le mot quelque part. J'avais entendu le mot, oui, c'était à l'époque dans Spirou, il y avait une rubrique à la fin où il parlait des fanzines, mais c'était vraiment la seule fois où j'avais entendu parler de fanzine. Donc je lui dis, oui, un fanzine, et comment je fais? Il me dit, bah, tu photocopies tes planches, tu les agrafes et tu vas les vendre. À l'époque, j'habitais à Hyères, il y avait un festival de bande dessinée à Hyères, et comme je connaissais un petit peu l'organisateur, j'ai pu avoir un stand. Donc peut-être... le mois avant le festival, ok, bon, bah, je fais des pages, je vais à la photocopie, je les agrafe. Alors, c'était très très amateur, hein, j'avais aucune idée de comment faire, de comment procéder réellement. Et donc voilà, j'ai mon stand, hein, premier festival, et là, sur ce premier festival, bah, je rencontre le FACO. Je rencontre à l'époque Fafé.
C'était en quelle année, ça, plus ou moins, tu te souviens?
C'était en juin 1996. Mm-hmm. Voilà, exactement. J'ai rencontré donc Fafé le 21 juin 1996. Et c'était peut-être 3 mois après m'être remis à dessiner. 3-4 mois après m'être remis à dessiner, quoi. Après, donc, comme je disais, 3 bonnes années d'abstinence.
Et il s'appelait comment, le fanzine?
Alors j'avais un fanzine qui s'appelait Anne d'aujourd'hui, qui existe encore d'ailleurs. Avec 2-3 amis, on essaye d'en sortir un tous les 2 ans à peu près. Mais ça reste un petit truc photocopié et très très intime. Hein. Donc c'était Anne d'aujourd'hui et j'avais fait un tout petit album qui s'appelait Bertrand le Goéland. Voilà. Dont j'ai repris les strips plus tard sur mon blog. Voilà.
Ça a été, l'élaboration, le dessin, la conception du fanzine, c'était pour toi difficile, laborieux, facile, comment tu... Donc si tu l'as fait en pensant déjà au mois suivant au festival, ou bien tu l'as fait juste comme ça d'abord dans ton coin et après tu as cherché un festival?
D'abord je l'ai fait dans mon coin. D'abord ça a vraiment été, ok, il y a un festival dans ma ville... Ok, je fais un fanzine, et puis voilà, je n'ai pas réfléchi à la suite, pas du tout. Et en fait, là, c'est vraiment la découverte du FACO, de voir leur travail déjà, parce qu'ils étaient actifs depuis le début des années 90, donc là on est en 96, je pense qu'ils ont commencé vers 92, donc ils avaient déjà un beau stand avec plein de bouquins, ils étaient pas mal à bosser à l'époque, c'était une bonne équipe assez dynamique, c'était 5 ou 6 au moins. Donc ça c'est quelque chose que j'avais jamais connu avant, c'est-à-dire un phénomène d'émulation. Jusqu'à présent j'étais toujours tout seul dans mon coin à faire mes petites bandes dessinées et je connaissais personne qui faisait des bandes dessinées à part moi. Et là d'un coup je rencontre donc ces gens-là qui habitent à l'époque à Nice, donc on est finalement de la même région. Et on commence à discuter, à sympathiser et puis... Et puis c'est là qu'ils me disent, bon, bah, dans un mois, il y a un festival à Carros. Carros, c'est juste à côté de Nice. Donc je me dis, allez, banco, j'y vais. Et puis de fil en aiguille, voilà, on s'est revus sur plusieurs festivals. À Carros, là, j'ai rencontré Big Ben. Donc c'était en juillet 96. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on a fini par collaborer et tout ça, mais c'est vrai que je dois beaucoup au FACO, hein, et à Gouringe, surtout dans la forme. Par exemple, quand moi, mon premier fanzine, c'était 10 pages recto verso A4, vulgairement photocopiées, des photocopies affreuses, et agrafées à l'arrache sur le côté, quoi. Il n'y avait aucune esthétique, c'était même le pire fanzine punk était plus... était plus esthétique, quoi.
Et le contenu, qu'est-ce qu'il y avait dedans?
Le contenu, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait?
Tu parlais de toi déjà ou de musique, comment ça?
Non, j'étais encore un peu dans ma phase schlingo, donc c'est des petites histoires un peu absurdes, voilà. C'était pas non plus du copier-coller de schlingo, mais on sentait qu'il y avait encore une certaine filiation dans mon travail. Pas encore de l'autobiographie, c'est venu plus tard en fait. J'ai dit que j'avais fait quelques essais autobiographiques avant, mais c'était vraiment des essais, et en plus c'est des planches que j'ai perdu, donc j'y ai repensé récemment à tout ça. J'avais totalement oublié que j'avais fait l'autobiographie quand j'étais ado.
Et par la suite, alors, comment ça s'est développé? Comment t'as évolué? Est-ce que t'as évolué parallèlement un peu comme ça à Gruinge, vu que maintenant tu édites avec eux? Ou comment ça s'est fait la transition aussi vers le livre? Comment tout ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu
Ben.
d'autres rencontres, d'autres personnes, d'autres...
Bah, j'imagine Angoulême aussi, par exemple. Ton premier Angoulême, tu as rencontré, donc d'après ce que Gilles nous a dit, c'est tu l'as fait avec Gilles et Jonathan Larabie, par exemple.
Ouais, donc alors en fait, après ce premier festival à Hyères, après ce deuxième festival à Carros, la question se pose. Je vois comment fonctionne Gruinge. Donc je monte ma structure. Je monte mon asso, c'était l'association IAN. Avec deux amis qui sont. En fait, on avait vraiment un groupe artistique. On était trois, il y avait moi, Guy de Tramont et Franck Magis. Qui font de la peinture, on a fait de la musique ensemble, on a donc fait de la bande dessinée. Eux, ce sont des acteurs, enfin des comédiens. Et Guy de Tramont, lui, sous un autre nom, sous son vrai nom, il est metteur en scène de théâtre. Donc on avait déjà on était assez pluridisciplinaire. Et donc on a monté cet asso pour un petit peu structurer tout ça. Et donc la bande dessinée, du coup, et l'édition du fanzine, c'était un département, un département de notre association. Et on essayait sur la région, enfin sur notre ville surtout, de monter un peu des petites manifestations où on faisait découvrir un peu tout notre travail. Et en plus, notre travail à l'époque était assez, on va dire, c'était assez homogène. Je veux dire, on avait un groupe de musique qui était dont le message était le même que les bandes dessinées. Mes deux amis, eux, avaient un espèce de duo comique, de sketch. Et on avait vraiment la même. On suivait une même voie, quoi. Et puis, forcément, au fur et à mesure, moi, je me suis vraiment investi donc dans le fanzine. Et on a fait ça assez sérieusement pendant. Je dirais de 96 à 1998, par là. Donc on a sorti quelques numéros, on faisait tous les festivals de la région du sud-est de la France. Donc forcément, on se recroisait beaucoup aussi avec Gruinge. Et puis après, s'est posé la question du festival d'Angoulême. Alors oui, tu parlais de Gilles tout à l'heure. Alors en fait, c'est un peu grâce à Jade et à un article dans Jade à l'époque. Où il y avait une chronique où on parlait de mon travail, de l'association IAN. Et à l'époque, je venais de sortir aussi le journal de Benoît, qui était mes premiers travaux autobiographiques. Ensuite, il y avait aussi. Et dans cette même chronique, il y avait aussi un article sur Gilles et son fanzine en vrac. Et il y avait aussi un article sur Jonathan Larabie et La Belle Vie. Et donc, on était chroniqués tous ensemble. Et en fait, grâce à cet article, en fait, on s'est plus ou moins contacté. Et on a décidé de prendre un stand à Angoulême. Alors comme moi, j'étais le seul à avoir une vraie structure, une asso avec des statues et tout, les autres se sont greffés avec moi et on a pris un stand à Angoulême. Voilà. Et donc c'était ça devait être en 2001, si ma mémoire est bonne. Ouais, 2001, janvier 2001. Voilà.
Et ça s'est bien passé
Eh ben, ça s'est très bien passé. Je me souviens, je venais de sortir mon journal de Benoît numéro 5 et 6. Et c'est un truc dont je suis toujours épaté quand j'y pense aujourd'hui, mais j'en avais vendu plus de 150. Donc, oui, il y avait quelque chose d'un coup qui me disait, mince, des gens s'intéressent réellement à mon travail.
J'ai expliqué à Big Ben hier, je crois. qu'il n'est pas impossible que je sois dans les 150, parce que c'est une des premières fois où je suis allé à Angoulême, c'est une des premières choses que j'ai achetées sans quasiment rien connaître. Moi j'étais là surtout plus parce que j'étais l'ami de David, donc j'étais pas encore dans la structure de l'employé du mois, etc. Et donc c'est le journal de Benoît, c'est une des premières choses que j'ai achetées. Donc voilà, je sais pas si je suis dans les 150, mais c'est pas impossible.
Ok. Ensuite, comment ça s'est passé la rencontre avec PLG? Tu es toujours avec eux?
Alors bah, justement, c'est cet Angoulême-là. Donc c'est Philippe Morin de PLG qui lui s'occupe d'ailleurs toujours de l'espace fanzine. Donc pour avoir le stand, j'y avais envoyé des exemplaires du journal de Benoît. Et puis à l'issue de ce festival, le dimanche, Philippe Morin passe à mon stand et me dit « J'aime beaucoup ton fanzine, ce serait bien que tu fasses quelques pages pour la revue PLG. » La revue PLG qui existait toujours à l'époque. Donc moi, d'accord, très bien, ok. Et en fait, j'ai pas envoyé quelques pages, j'ai envoyé 25 pages, qui était le projet de mon premier livre, en fait, c'était L'amour. Et ça a été très vite, hein. J'ai envoyé 25 pages, il m'a dit ok, ça m'intéresse, voilà. Et donc depuis Philippe Morin me soutient vraiment.
Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as commencé à dessiner des récits autobiographiques?
Alors il y a eu plusieurs phases. Il y a eu dans le journal de Benoît, il y a eu les deux premiers numéros. Que je renie un petit peu aujourd'hui. Et où là, c'était plutôt un peu de, je dirais pas de l'égocentrisme, mais pas loin. C'était, je me disais que c'était dommage de perdre toutes les conneries que mes amis et moi on pouvait faire, on pouvait dire. Et puis donc c'est pour ça que les deux premiers numéros, c'est plutôt de l'anecdote et pas mal de privé joke même, tout ça. Et en fait, l'écriture, s'est développé à partir du numéro 3 où, de par ma vie personnelle, j'ai ressenti le besoin de coucher des choses plus intimes et d'aller un peu plus loin sur le papier. Et puis, progressivement, je suis allé de plus en plus loin. Donc, jusqu'à ce livre, L'amour, où je crois que je suis allé le plus loin, d'ailleurs.
Oui, assez d'accord. Comment tu conçois ta bande dessinée autobiographique? Tu écris d'abord ou tu y vas directement? Tu fais un crayonné? De quelle façon tu abordes ça au niveau? Enfin oui, comment tu travailles en fait par rapport à comment tu la conçois?
Disons qu'à chaque livre, sa méthode de travail. Donc pour l'amour, c'était un besoin de c'était un besoin d'y aller et donc de lâcher le plus vite possible. Donc, de toute façon, en gros, j'écris jamais de scénario fini à l'avance. Hein. J'avance à petits pas. Je crayonne un storyboard de 3 pages d'avance maximum. Et après, je le fais au propre. Mais j'ai fait comme ça pour l'amour. Vraiment, j'ai avancé. J'avais en tête plus ou moins la structure du livre. Parce que y a une structure où je passe quand même du passé au présent, enfin du présent de l'époque, et où je repars vers le passé, et où je reviens vers le présent, donc il fallait quand même un petit plan, j'avais un plan dans ma tête à peu près. Mais oui, et puis comme ce sont des souvenirs, finalement l'histoire était déjà écrite, donc j'avais juste qu'à me souvenir et qu'à coucher sur le papier, quoi, finalement.
Donc prochaine question par rapport à l'avenir, quels sont tes plans? Tu as des albums, tu travailles album par album, là tu as des albums qui sont sortis cette année, et quels sont tes plans, en fait, tes projets, comment tu te vois dans la bande dessinée par rapport à plus tard?
J'ai du mal à me projeter quand même dans l'avenir, hein. J'ai pas vraiment de plan de carrière. je suis assez quand même du genre à avancer au jour le jour. J'ai pas une vision. De toute façon, je préfère même pas avoir de vision parce que au moins je serai pas déçu. Je verrai bien ce qui va arriver.
Et à plus court terme, peut-être, il y a des projets plus précis ou sur lesquels tu travailles, par exemple, maintenant sur...
Oui, en ce moment, je travaille sur deux projets. C'est la première fois, d'ailleurs, où je mène deux projets en même temps. Donc, j'ai deux projets. J'ai pas mal fait d'expérimentation cette année. J'ai pas mal travaillé et réfléchi sur ma façon de dessiner, mais sur ma façon d'aborder aussi la bande dessinée et tout ça. Voilà. Je pense à... J'ai fait un festival l'an dernier et il y avait un petit gars qui avait un classeur avec une vingtaine ou une trentaine de projets de livres. Et ce gars pleurait, entre guillemets, un petit peu, quoi, en disant « Ouais... voilà tous mes projets de livres, à chaque fois ça a été refusé. » Et ce gars avait une vingtaine de projets dans ses pochettes en plastique. Et c'est là où je me suis dit, mais quelle est cette façon grotesque d'aborder la chose ? Moi, un livre, avant de le faire, il va être en moi pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je vais y réfléchir, je vais me dire, tiens, voilà un sujet. Après, je vais dire, comment faire ce sujet ? Et je vais attendre que le livre me brûle littéralement avant d'y aller et de le faire. Et finalement, je m'en fous de savoir s'il y a un éditeur qui va l'éditer. L'important pour moi, c'est d'avoir ce livre, de le faire, d'y aller. S'il est publié, il est publié, tant mieux. S'il n'est pas publié, je le photocopie et voilà. Et je le tire à 50 ou 100 exemplaires et on n'en parle plus. Mais le projet aura vécu et je serai allé au bout de moi-même. Je pense surtout à mon deuxième livre que j'ai fait chez PLG qui s'appelle Blâme et qui est un travail totalement différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et que je pense que je recommencerai jamais un truc pareil. Et où c'était vraiment, pareil, une envie de faire ça, même si à l'époque ça a été, je pense, un suicide artistique de faire ça, ou un suicide professionnel en tout cas, quoi.
C'était plus fort que toi, ça ruminait en toi, et puis il fallait que ça sorte, quoi.
Voilà, tout à fait. Chaque livre est comme ça, hein. Chaque livre est pensé, voilà.
Il y a toujours ce côté bouillonnant, quoi. Ce côté, à un moment, il faut que ça sorte, sinon ça brûle trop. Il n'y a pas... Il n'y a pas la conception d'un album plus dans un climat plus serein ou plus calme. Ça vient toujours comme ça de l'intérieur et il faut presque le vomir sur la table pour que ça sorte à un moment, quoi.
Oui. Peut-être pas mon dernier livre, Les Radicaux Libres, où là c'était un recueil de quatre nouvelles, où donc j'ai pris plus le temps de réfléchir. Mais oui, dans l'ensemble, c'est vraiment... Je me suis aperçu aussi que je recommençais souvent mes livres. En fait, j'ai une idée de livre, je vais faire 10, 11, 12 pages et je vais les oublier dans un coin, ça va dormir peut-être 2 ans, peut-être le temps de faire un autre livre entre-temps. Et après, elles vont ressortir et je vais les refaire. Et tous mes livres ont été commencés comme ça. L'amour, il y a eu une première version... Il y a une première version qui a fini dans mon évier en cendres. Dans ma ville, pareil, il y a eu les 11 premières pages qui ont été refaites après, au moins 2 ans après, pour la version définitive du livre. Blâme, c'est la même chose, j'avais commencé une version avant. Enfin, je travaille toujours comme ça jusqu'à présent, donc... Donc oui, chaque livre est réfléchi, pensé, à fond, quoi. Et oui, comme tu dis, c'est un peu bouillonnant, en vrai.
Et c'est supportable, je veux dire. Tu arrives à... Bon, tu sembles... T'es toujours debout, donc ça va. Là, je confirme que t'es toujours vivant, mais ça semble quand même assez douloureux par moments. Mais donc, c'est quelque chose que tu arrives à gérer, apparemment. ses conceptions. C'est vraiment des naissances, quoi, presque, ces livres.
Oui, tout à fait. Oui, j'arrive à gérer, ça va. ça va. Mais c'est vrai que l'étape du dessin est presque une souffrance, en fait. C'est quand je me retrouve devant ma table et en me disant « bon, maintenant, on y va », y a parfois des longs processus où je me lève, je me bois un café, je reviens à ma table, je repars, je vais fumer une cigarette, je reviens, je repars, je vais mettre un CD, je vais dans ma bibliothèque, je prends un livre, je feuillette, je le repose, je reviens à ma table. L'étape du dessin est douloureuse. Je me suis aperçu que j'aimais pas dessiner tant que ça, en fait. En fait, j'adore faire de la bande dessinée, voilà.
Et le plaisir, est-ce que tu... À quelle étape du processus tu ressens du plaisir? Ou est-ce que tu ressens du plaisir? Ou c'est purement un besoin de sortie, comme ça?
C'est un besoin. C'est un besoin. Le plaisir, je le ressens à la lecture.
Quand le livre est fini, quand t'as l'objet en main ou quand t'as les planches en main?
Quand j'ai les planches en main. Déjà, quand j'ai les planches en main, qu'elles sont finies, ancrées, quand il y en a au moins... plus de 5 ou 6, quand je vois que ça commence à vivre et à exister, là, je souffle et je dis... Et le plaisir vient à ce moment-là. Très rarement pendant l'étape de réalisation. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé il y a très peu de temps où j'ai pris plaisir à dessiner, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Mais oui, en fait, voilà, le plaisir vient à la lecture, finalement. J'aime lire mes livres.
Moi, j'avais encore une question par rapport à... oui, on sent évidemment un lien très fort, très, très, très physique... et concret avec la bande dessinée, avec les objets. Bande dessinée, par exemple, je pense pas me tromper quand je pense avoir lu dans des comics clubs que tu trouves des BD complètement improbables. Est-ce que tu continues à trouver, à collectionner ou à garder des BD complètement débiles? Est-ce que tu peux donner un exemple de BD comme ça, improbable, que tu as trouvé avec des cases mal dessinées, enfin tout et rien qui fonctionne, quoi, ou absurde presque?
Mais ça va encore plus loin parce que je collectionne aussi les modes d'emploi. Donc les modes d'emploi, c'est quand même une suite narrative d'images. Donc ce sont des bandes dessinées et je garde tous les modes d'emploi de montage de mes meubles, par exemple. Donc j'ai une dizaine de modes d'emploi IKEA, même en double. Hein, donc s'il y a des collectionneurs qui s'intéressent, hein, j'ai la bibliothèque Billy à peu près en le mode d'emploi en triple exemplaire.
Est-ce que tu achètes des meubles rien que pour le mode d'emploi ou non? Tu n'en es pas encore là? Tu as peut-être plein de meubles chez toi qui ne sont pas utilisés, mais tu as des modes d'emploi.
Non, je suis pas encore là. J'aime bien, il y a un mode d'emploi que j'aime beaucoup, c'est celui du test de grossesse, avec la dame qui fait pipi sur la petite languette. Donc c'est très bien expliqué en 3-4 images et celui-là est très beau. Et j'en ai pas mal aussi de modes d'emploi de préservatifs. Bon, c'est un peu redondant, c'est un peu toujours la même histoire, mais c'est une façon d'évoquer la chose. Plusieurs styles, j'en ai qui sont très réalistes, j'en ai qui sont plus minimales, donc c'est assez intéressant. Je me souviens même avoir fait une tentative d'article pour le Comics Club, un article qui n'a jamais vu le jour, où j'établissais un parallèle entre le mode d'emploi et l'heroic fantasy. Alors en fait, si on peut un peu développer, ça veut dire que le principe de l'heroic fantasy, c'est toujours plusieurs personnages qui se rencontrent pour mener une quête. Et finalement, un mode d'emploi de meubles, ce sont plusieurs pièces qui se rencontrent, et la quête finale, c'est le meuble. Donc en fait, une série soleil et un mode d'emploi IKEA, c'est grosso modo la même chose, en fait.
Yes. Très bien. Donc maintenant deux petites questions subsidiaires. Donc la première, peux-tu citer une bande dessinée qui t'est chère, donc auquel tu penses souvent? Ça peut être une bande dessinée que tu as lue en étant enfant, ou une bande dessinée que tu as lue plus tard, il y a récemment ou il y a 10 ans, mais quelque chose auquel tu penses souvent, qui t'a marqué, qui te... Voilà.
Ça, c'est une vaste question. Parce que, comme je disais, je lis quand même de la bande dessinée depuis que j'ai 5 ans. Et j'en lis énormément. Et comme on disait tout à l'heure avec les albums improbables, je lis aussi de tout. Ce qui fait qu'il m'arrive de lire... m'est arrivé de lire jusqu'à 15, 20, 30 bandes dessinées par semaine. Voilà, au détriment d'ailleurs de... Et je regrette hein, parfois, au détriment de la littérature par exemple, où du coup j'ai plus le temps de lire des vrais livres sans images. déjà c'est une activité qui prend beaucoup de temps, et forcément il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont marqué. Je parlais de Charlie Schlingo précédemment, donc Charlie Schlingo m'a vraiment marqué à vie, quoi, au fer rouge. Et je pense que même si il m'a fallu des années pour échapper à sa prégnance, et je pense enfin m'en être tiré depuis quelque temps d'ailleurs. Donc oui, il y a Charlie Schlingo qui m'a marqué, Hugo Pratt profondément marqué, Corto Maltese m'a vraiment marqué. Récemment, Daniel Clowes. Là, c'est un peu dur comme question. Après, les gens que je fréquente aussi, par moment, le temps mort de Gilles Rochier m'a impressionné. C'est rare, mais j'ai versé une larme sur une ou deux pages. Donc, certaines émotions dans ce livre. Voilà. Je pourrais en citer 1000. Je crois qu'à chaque jour, sa bande dessinée.
Quelle belle fin. Ok. Dernière question par rapport aux 24 heures de bande dessinée. On voulait savoir un peu ce que tu en pensais, si tu en as déjà participé à 24 heures, si tu as envie, si tu aimes, si tu détestes, et pourquoi.
Bien. Les 24 heures de la bande dessinée, bon, déjà je n'y ai jamais participé, pour une simple raison, c'est que je suis incapable de faire 24 pages en 24 heures. En ce moment... une page parfois me demande une semaine de travail. Il m'arrive de passer une après-midi entière sur la même case, à la refaire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 20 fois, jusqu'à trouver le rythme parfait. Donc je suis pas quelqu'un qui va dans la spontanéité. Après je trouve ça assez étonnant de voir tous ces gens qui arrivent à pondre autant de pages en si peu de temps. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, mais c'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Après, le rendu, j'en ai pas lu beaucoup. Hein. J'ai tenté de lire, je crois que c'était Boule de Neige, hein, qui était sorti chez Shampoing, que j'ai trouvé illisible. Hein. Dire, on m'avait offert ce livre et ça, je crois que je l'ai rangé dans un coin de ma bibliothèque énervé en me disant mais non, c'est voilà. Donc d'un côté je suis admiratif par ces gens qui arrivent quand même à dessiner très vite, et moi j'en suis totalement incapable, hein, même voilà. Puis rester 24 heures à faire de la bande dessinée, non. Il y a autre chose dans la vie finalement que la bande dessinée. Voilà.
Bah merci. De retour avec Benoît pour encore une question. Pourquoi le nom BSK? D'où c'est venu BSK?
Alors, j'en parle dans un des journaux de Benoît. Dans un des journaux de Benoît, devrais-je dire. En fait, c'est une connerie d'adolescent. Hein. Je signe BSK depuis que... Je sais pas, depuis que j'ai 15 ou 16 ans. Et il n'est pas exclu que je signe de mon vrai nom d'ici peu, quoi. Parce que... Voilà. Donc, pourquoi BSK? En fait, à la base, c'était à cause du chanteur d'AC/DC, Bon Scott. Voilà.
Je suis super content d'avoir posé la question, en fait.
C'était à cause de Bon Scott, hein, et je signais à l'époque, donc j'avais 14 ans, je signais Bon Scoba. À un moment, je trouvais que Bon Scoba, c'était un peu ridicule. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait une série télé qui m'avait marqué, c'était Au nom de tous les miens. C'était Martin Gray, l'auteur. Donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'histoire d'un survivant de Auschwitz, je crois, un juif polonais. Et en fait, dans la série, on apprend que Martin Gray s'appelle en vrai Martin Grayowski. Et là, j'ai bien travaillé du chapeau et je me suis dit, mais alors, je vais signer Bon Skobiowski maintenant, moi aussi, je vais être un juif polonais. Donc j'ai signé Bon Skobiowski et après, je me suis dit quand même que c'était complètement con. Et puis j'ai réduit tout ça et ça a fait BSK et je commence à me dire aussi que c'est complètement con. Donc il n'est pas exclu que je finisse par signer de mon vrai nom. Je pense qu'il faut juste avoir le courage de le faire. Mais en fait, pour mon premier livre, c'est bien d'en parler justement. Mon premier livre, L'amour, en fait je voulais rompre avec le fanzina et signer enfin de mon vrai nom. Donc je m'appelle Benoît Barral, et sur la maquette du livre, j'avais mis mon nom, Benoît Barral, tout ça, donc pour moi c'était terminé de BSK. Sauf qu'il se trouve qu'il y a un auteur mainstream qui s'appelle Nicolas Barral, et qu'un jour, Philippe Morin de PLG m'appelle et me dit « Écoute Benoît, il faudrait que tu revoies ça, parce que tout le monde croit que je vais éditer un livre de Nicolas Barral ». Et donc j'ai dit, bon, bah ok, on va mettre BSK, et puis voilà, je continue à signer BSK.
Prisonnier de ton nom.
Voilà, prisonnier d'un pseudo. Après, je pense à Sébastien Lumineau qui est arrivé à abandonner son pseudo de Imus pour signer à visage découvert. Et c'est vrai que j'y pense, et à chaque livre quand je prépare la maquette de la couverture et que je mets BSK, je me dis, mais arrête. Il faut que t'arrêtes maintenant, mais...
Et qui est devenu Nicolas Barral? On sait ce qui est devenu Nicolas Barral, ou ce qu'il devient? Est-ce qu'il fait encore de la bande dessinée ou...
Je crois qu'il fait toujours du mainstream. Hein. Il me semble qu'il avait une série chez Dupuis, mais je peux me tromper. Hein. Mais voilà. Je crois que c'était pas très... Son travail m'a jamais très très intéressé, en fait. Hein.
C'est une question plus que subsidiaire, de toute façon.
Mais bonne chance pour le prochain livre, pour changer ton nom. J'espère que ça ira.